Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez l'émission La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft. Alors pour rappel, Picassoft c'est une association donc étudiante qui s'est donnée pour objet de sensibiliser et de former les citoyens aux enjeux du numérique et aussi d'héberger des services web qui sont respectueux de la vie privée. Aujourd'hui, on va parler d'anonymat sur Internet avec Tor ou The Onion Router. Pour ça, je suis avec Boris, Adrien et Stéphane de chez Picassoft. Salut à vous.
Bonjour, Quentin.
Salut.
Et on a le plaisir de recevoir Ludovic Herliman, qui est ingénieur système chez Mozilla ces derniers temps, si je ne me trompe pas. Salut à toi.
Bonjour.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous. Je crois que Tor, c'est aussi un des sujets qui t'intéresse. Donc, du coup, c'est super de pouvoir te poser quelques questions dessus. Mais avant toute chose, est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots ?
Ouais, je m'appelle Ludovic, je me suis connecté la première fois à Internet en 1991 en piquant l'accès à mon papa sur Bitnet. Depuis, j'ai jamais réussi à me déconnecter plus d'une semaine. J'utilise des logiciels libres depuis 1996. J'ai fait un peu de macOS, j'ai fait un peu de Linux, j'ai fait plein de choses. Je suis pique-assiette, je suis touche-à-tout. Voilà. Et j'habite du côté de Toulouse, là où il fait beau. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent.
C'est vrai que nous, du côté de Compiègne, on n'a pas cette chance en général.
Du coup, il fait très chaud et très beau.
Ok. Bah, par rapport à Tor, je sais que, en tout cas, au niveau du grand public, le nom de Tor, il est souvent associé à d'autres termes. On entend souvent les mots de dark web, de deep web. On ne sait pas exactement ce qui se cache derrière ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est Tor, concrètement ?
Ouais. Tor, c'est un réseau qui essaye de garantir l'anonymat de ses utilisateurs. Et donc, normalement, quand on visite un site web ou quand on envoie un mail, ce qui se passe, c'est que la machine sur laquelle on est, elle va se connecter directement à un serveur et elle va faire des choses. Et donc, le serveur, lui, il va avoir un journal des événements de ce qui se passe. Dans le journal des événements de ce qui se passe, il va voir que telle adresse IP à telle heure est venue. Et donc, Tor, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de se connecter directement à la machine à laquelle on veut accéder aux ressources, ça va passer par un certain nombre de machines au milieu. Donc la première, on va se connecter vers une première machine, c'est un nœud d'entrée dans le réseau Tor. Ce nœud d'entrée va dire, tiens, hop, je connais d'autres nœuds, j'envoie vers ce nœud-là. Ça fait un deuxième nœud, et donc ensuite, ça arrive vers un nœud de sortie, et le nœud de sortie, ça arrive. Donc en fait, au lieu d'avoir l'adresse IP et l'heure à laquelle on s'est connecté, il y a un petit décalage. Et il y a une autre adresse IP qui est vue sur le serveur final. Donc ça sert à brouiller les pistes des gens qui voudraient savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites et où vous allez. Ça, c'est la première chose que ça fait. La deuxième chose que ça fait, c'est ça permet de... Donc bien sûr, tout ça, c'est chiffré. Hein. Un opérateur de relais ne peut... Quand il y a une connexion qui passe dans le... Dans le réseau Tor, ça passe par trois opérateurs de relais différents. Donc il y a trois types de relais qui existent dans le réseau Tor. Le premier, c'est un nœud de sortie. Donc c'est l'adresse IP qui va être visible. Donc ça, c'est très compliqué à gérer parce qu'en fait, il y a des gens qui utilisent Tor pour spammer, et des gens qui utilisent Tor pour harceler. Donc les gens qui gèrent les nœuds de relais, ça peut être un peu compliqué vis-à-vis de la loi, donc moi, je me suis pas lancé là-dedans. Je préfère faire confiance à une association comme Nos Oignons, qui gère qui gère 5 ou 6 relais de sortie en France. Moi, je gère des relais d'entrée ou des relais intermédiaires. Donc, les relais d'entrée, il y a une connexion qui se fait. On cherche et on fait suivre derrière. Donc, en fait, c'est juste, je reçois quelque chose, je le retends. Je reprends quelque chose, je le retends. Et le troisième mode, c'est le mode bridge, parce qu'en fait, quand dans les pays où il y a de la censure et on veut pas que les gens utilisent Tor, la première chose qu'on fait, c'est on bloque les adresses IP des nœuds d'entrée, des nœuds qui sont susceptibles d'être des nœuds d'entrée, et des nœuds d'annuaire, parce qu'il y a des annuaires pour savoir où trouver. Quand on lance une connexion Tor, la première chose qu'on fait, c'est on va chercher vers un annuaire vers qui je peux me connecter. Et donc, il y a un mode bridge qui permet de faire tourner sans que ce soit trop visible et un peu plus caché des services Tor. Et on peut les rentrer à la main manuellement quand on veut initier une connexion Tor, quand on a accès à cette liste. Et ça permet aux gens qui ont vraiment besoin, pas aux gens qui veulent faire du harcèlement ou du spam avec Tor, de pouvoir se connecter quand ils sont dans des pays où c'est vraiment compliqué d'accéder à Tor. Donc la deuxième chose dont tu parlais, c'était du dark web. Et donc le dark web, c'est ce sont des services qui sont cachés, des services en oignon. Donc sur un, quand on veut accéder, une fois qu'on est connecté sur le réseau Tor, il y a des services qui ne sont accessibles que via Tor. Et c'est ça qu'on appelle le dark web. Et dans le dark web, il y a Facebook. Donc c'est pas vraiment toujours ce qu'on pense, mais c'est il y a un certain nombre de services qui ne sont accessibles que de manière anonyme. Alors, pourquoi en faire tourner ? J'ai pas la réponse, puisque j'en fais pas tourner moi-même.
Ok.
Est-ce que ça a été clair comme explication ?
Eh ben écoute, merveilleusement clair. En plus, ça nous donnera l'occasion de revenir sur pas mal de notions que tu as introduites. Donc effectivement, un Tor...
Je vais rajouter encore deux trucs.
Oui.
Avant que je dise. Donc, il y a Tor, c'est un écosystème de choses. C'est le réseau, c'est un navigateur, c'est des navigateurs qui ont des plugins pour se connecter à Tor. C'est une distribution Linux qui ne fait que ça. Donc, c'est le plus gros et c'est le plus connu des réseaux d'anonymisation. Mais il y en a un deuxième qui s'appelle 2IP, qui permet de faire la même chose, mais qui n'est pas construit de la même manière. Donc, sur Tor, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas faire de peer-to-peer sur Tor. Par contre, sur 2IP, par exemple, on peut en faire. Et quand on est en forme et qu'on a vraiment envie de faire que ça, on peut faire du Tor sur du 2IP.
Allô ?
Oui.
Ah, c'est bon, parfait, ça avait un tout petit peu coupé. Ok, écoute, merci beaucoup. Donc oui, effectivement, Tor, c'est, comme tu l'as dit, avant tout un réseau, mais aussi un écosystème. Et maintenant qu'on a compris un petit peu techniquement comment ça se présentait, qui utilise Tor aujourd'hui et pour quels usages, pour quoi faire ?
Alors, donc, comme j'avais eu la question un peu en avance, je me suis documenté, j'ai essayé de trouver de la documentation et j'en ai trouvé. Donc il y a un site web qui s'appelle metrics.torproject.org. sur lequel on peut trouver des données, mais comme le premier usage de Tor, c'est l'anonymité. Enfin, oui, c'est ça, on dit comme ça en français, ouais, l'anonymité.
L'anonymat.
C'est difficile de savoir qui fait quoi et comment. Par contre, je peux vous dire que le plus grand pourcentage d'utilisateurs de Tor se trouve en Russie, suivi par les US, suivi par l'Iran. Pour moi, moi, j'utilise jamais Tor, parce que j'ai encore jamais ressenti le besoin de l'utiliser, donc j'en ai pas besoin. Je sais que il y a des gens qui utilisent Tor pour poster des commentaires sur des billets de blog, pour embêter l'utilisateur du billet de blog, et le billet de blog ce sera un nœud de sortie de Tor, donc c'est compliqué à bloquer, voilà, donc ça permet de faire des choses pas cool, mais il y a aussi des choses cool qu'on peut faire avec. Par exemple en Chine, quand on arrive à accéder à Tor, c'est très compliqué en Chine. On peut par exemple accéder à Wikipédia et se renseigner sur ce qui s'est passé à Tiananmen en 1989.
Ouais, donc ça permet d'éviter la censure.
Donc en Iran, pareil, ça permet d'accéder à des sites de cul parce que c'est interdit. Ça permet aussi d'aller chercher de l'information que le gouvernement voudrait pas que tu saches. Quand le gouvernement te fait de la communication à donf, comme quoi c'est les Américains qui sont méchants dans le nucléaire, que nous on est gentil, tu peux peut-être aller trouver le rapport du commissariat, non, pas de, du truc qui vient là pour l'énergie atomique, qui est plus ou moins peut-être balance par rapport à ce que pourrait te sortir ton gouvernement. Donc ça te permet dans un régime où toute information est contrôlée, de pouvoir aller chercher une information tierce, ouais, sans qu'on vienne t'embêter parce qu'on pourra pas savoir que c'est toi. Dans le même genre, ça permet aussi aux opposants d'envoyer de l'information à l'extérieur quand les frontières sont fermées, qu'ils ne veulent pas en sortir. Ouais, ça sert à ça.
Et pour un utilisateur lambda, est-ce qu'il y a une utilité vraiment pour nous, pour un Français classique qui n'utilise pas forcément des outils informatiques très... Enfin, quelle est l'utilité pour un utilisateur, oui, lambda, quoi ?
Eh bien, je ne sais pas. Je me considère un utilisateur lambda la plupart du temps et je n'utilise pas Tor.
D'accord.
J'ai fait tourner que des serveurs. Après, j'ai pas, voilà, je suis pas aussi dans un métier à risque ou dans un métier où je pourrais avoir des problèmes. Donc, je suis pas.
On y reviendra.
Je suis pas reporter sans frontières. Je me retrouve au Myanmar et je veux être sûr que mes images elles sortent, tu vois. Et je veux être sûr que mes images elles sortent parce que j'ai pris des photos d'un massacre et je veux pas que ce soit censuré parce que j'utilise Internet normalement parce que ça peut être lu et vu. Je peux passer par Tor pour le faire.
Ouais, merci Ludovic, on en reparlera un peu en fin d'émission, mais effectivement, là, tu as quand même mis en avant les usages principaux aujourd'hui, hein, lanceur d'alerte, journalisme, etc., lutte contre la censure. Après, on verra, il peut y avoir des usages plus triviaux, on en reparlera un peu à la fin, mais comme tout simplement la résistance au tracking commercial, ça peut aussi passer par un moment ce genre de choses.
Ça peut passer par là, mais je trouve que c'est... Il y a d'autres méthodes de lutte contre le tracking commercial. Ça fait un peu j'arrive pas à trouver l'expression.
Déplacer une mandarine avec un tractopelle ou quelque chose comme ça. Hein.
Ouais, ouais. J'imagine.
Ok, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions. Si tu ne souhaites, tu peux rester avec nous si tu as un peu de temps pour la suite de l'émission, nous corriger si on dit des bêtises. Je sais pas si tu as.
Moi, je vais rester tant que j'ai de la batterie sur le téléphone.
Ça marche. Le cas échéant, si on t'entend plus, on saura pourquoi. Pour la suite, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors. Aussi, Ludovic, toi, tu as parlé d'adresse IP à un moment. Est-ce que c'est peut-être utile de faire un petit rappel sur ce qu'est une adresse IP?
Oui, si vous voulez. Donc une adresse IP, c'est comme une adresse physique sur une maison, sauf qu'elle est assignée à l'ordinateur. Et donc en fait, chaque fois qu'on fait quelque chose sur un ordinateur qui est en réseau, c'est comme si on envoyait des paquets par la poste. Et donc on a besoin de savoir où est-ce qu'on veut l'envoyer. Et donc on envoie des paquets de surmarque adresse, et l'adresse c'est l'adresse IP. Et sur les paquets qu'on envoie, on met comme envoyeur l'adresse IP qu'on a. Et donc, en fait, ça permet d'envoyer vers un serveur. Le serveur va voir « Ah, ça vient de là, je le renvoie par là », sans avoir besoin de savoir comment ça fonctionne entre les deux.
Ok, ok. Et donc, du coup, Quentin, on a aussi parlé de chiffrement. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, expliquer ce qu'est le chiffrement ?
Ouais, carrément. Bah, là, on va faire vraiment un rappel, pour le coup, pas du tout technique, mais juste de principe. Donc, quand on dit chiffrer, donc en général les gens disent crypté, mais le mot correct c'est chiffrer.
Anglicisme.
Exactement. Donc chiffrer un message à destination d'une personne, c'est faire en sorte que s'il n'y ait que cette personne qui puisse le lire. Donc un grand classique du chiffrement que vous avez peut-être vu dans des jeux quand vous étiez enfant ou même plus tard, donc évidemment un chiffrement pas du tout sécurisé, c'est de remplacer chaque lettre de l'alphabet par la lettre suivante.
Alors quand on fait ça, Quentin, ça s'appelle un chiffre de César, quand on décale un message d'un certain nombre de lettres. Et le nombre de lettres que l'on utilise pour décaler les lettres, c'est ce qu'on appelle le secret. Je crois que tu vas nous en reparler.
Ouais, carrément.
Et l'idée, c'est justement que pour pouvoir déchiffrer le message que tu m'envoies, si tu m'envoies un message chiffré avec, par exemple, un chiffre de César, eh bien, il faut que je connaisse le secret, c'est-à-dire faut que je connaisse le nombre de lettres de décalage qu'il y a pour que je puisse les recaler et obtenir le message initial. Alors, évidemment, c'est pour ça que tu as dit que le chiffre de César n'était pas très sécurisé, il n'est pas robuste, parce qu'évidemment, même si je ne connais pas le secret, eh ben là, je peux essayer de le deviner en faisant plusieurs tentatives, et on voit bien que je vais y arriver assez facilement dans ce cas-là.
Oui, c'est ça, tu peux carrément deviner. Mais effectivement, la notion qui est importante dans le chiffrement, c'est cette notion de secret. Et donc, il y a deux approches en général dans le chiffrement. Dans la première, qui est dite symétrique, chiffrement symétrique, donc l'émetteur et le destinataire ont un secret commun, un secret partagé, qui sert à chiffrer, à déchiffrer le message. Donc là, par exemple, dans ce qu'a expliqué Stéphane, le chiffre de César, c'est un secret qui est partagé entre les deux personnes. D'un côté, on va décaler de 3, de l'autre côté, on va aussi décaler de 3. Et alors, dans la deuxième approche, qui est dite asymétrique, l'émetteur et le destinataire, ils ont un secret chacun, et ces deux secrets sont indépendants. Donc on va pas du tout rentrer dans les détails sur comment ça fonctionne, c'est pas du tout l'objet de cette émission, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette deuxième option, il n'y a pas besoin que les deux personnes s'accordent sur un secret commun. Et c'est vraiment super pratique sur Internet, parce que sinon, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue.
Le serpent qui se mord la queue, ça doit faire mal, mais ce que tu veux dire, Quentin, c'est que si on était sur Internet et que tout le monde partageait le même secret... Bah, en fait, ce serait plus vraiment un secret, parce que tout le monde le connaîtrait. Donc évidemment, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc pour qu'on ait des techniques de chiffrement qui fonctionnent dans un collectif comme ça, eh bien, il faut que chacun en fait, possède son propre secret. Et ça permet à tout le monde de chiffrer des messages pour cette personne, mais seulement à cette personne de la déchiffrer. Si on prend un petit exemple avec des noms pris au hasard, hein, si on a une personne qui s'appelle Alice et qui veut envoyer des messages à une autre personne qui s'appelle par exemple Bob, mais qu'on veut que personne d'autre que Bob ne puisse le déchiffrer, eh bien on va utiliser du chiffrement asymétrique. Une analogie qu'on prend parfois, c'est un système de boîte. En fait, c'est comme si Alice avait une boîte dans laquelle elle met son message, et elle ferme cette boîte, mais une fois que la boîte est fermée, eh bien il y a une seule personne qui peut l'ouvrir, c'est Bob, parce que c'est le seul à posséder la clé. Donc si par exemple Alice donne, veut transmettre son message à Bob en le faisant transporter le message par quelqu'un qui s'appelle Charlie, eh bien Charlie va pouvoir transporter évidemment la boîte, mais il ne pourra en aucun cas lire le contenu puisqu'il n'a pas la clé que seul Bob possède.
Mais tout le monde peut mettre son message dans la boîte.
Ouais, exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est comme si Bob, il avait construit des tas et des tas et des tas de boîtes dont lui seul possède la clé. Il a donné ses boîtes à tout le monde. Donc tout le monde, en fait, en quelque sorte, peut avoir une boîte qui se ferme automatiquement pour l'envoyer à Bob. Mais par contre, il n'y a que Bob qui pourra ouvrir cette boîte. Donc ça permet à tout le monde d'envoyer des messages chiffrés à Bob, mais seul Bob peut déchiffrer ses messages.
Donc ça, c'est la symétrique, c'est ça ?
C'est la symétrique, ouais.
C'est asymétrique,
ouais. Oui, c'est ça. Et le symétrique... une analogie, ce serait que chacun y a une boîte dans laquelle les deux personnes peuvent mettre le message et chacun a une clé différente pour ouvrir la boîte, c'est ça ?
Du coup, la même clé finalement.
La même clé, voilà.
C'est justement la clé symétrique, c'est ça. Il y a une boîte avec une clé, on file la clé à tout le monde.
Le problème, c'est que si quelqu'un perd la clé, et ben, le problème, c'est que du coup, tout le monde est...
Ouais, carrément. Tout le monde peut l'ouvrir. Et puis, même sur Internet, à un moment, c'est comme si mon secret, il faut que je le transmette à quelqu'un, donc il faut que j'ai un canal sécurisé, et du coup, il faut que j'ai une autre clé, donc sur Internet, c'est compliqué. Enfin voilà, en tout cas, tout ça pour dire que quand on parlera de chiffrement dans la suite de l'émission, on parlera de chiffrement asymétrique. Et donc, je me permets d'arrêter l'émission à ce moment-là pour faire le running gag habituel et pour rappeler que. Alice et Bob sont dans le roman de Stéphane que vous pouvez trouver sur J'échange et la librairie des signes.
Mais c'est un hasard.
Un sacré hasard.
D'accord. Bien. Alors du coup, j'ai compris que Thor utilise le chiffrement asymétrique. Et donc comment il l'utilise pour empêcher Charlie finalement de savoir qu'Alice communique avec Bob ?
Alors, on va faire de notre mieux pour essayer d'être le plus clair possible. Donc, comme l'a rappelé Ludovic, le but, c'est d'anonymiser les communications et pas forcément de masquer leur contenu. On en reparlera plus tard. Mais donc, afin qu'un indiscret ne puisse pas savoir qui parle avec qui, consulte Tencent, etc., il y a cette idée de routage en oignon. Alors, on va expliquer en détail ce que ça veut dire, mais c'est pour ça que Tor signifie à la base « the onion router ». Donc, la première étape, ça va être de déterminer un chemin aléatoire jusqu'au site, donc comme l'a rappelé Ludovic en passant par le réseau Tor. Donc, pour rappel, un message est transmis sur Internet via plusieurs ordinateurs, donc on appelle des routeurs et qui se passent chacun de messages afin de l'acheminer vers sa destination. Et ensuite, c'est là qu'on va comprendre pourquoi on parle d'oignon. En fait, on peut aussi faire la métaphore avec les poupées russes. En fait, on va chiffrer l'adresse du site que l'on veut consulter, on va le chiffrer une première fois, pour le nœud de sortie du réseau Tor, c'est-à-dire le dernier intermédiaire avant le site lui-même, le dernier maillon de la chaîne. Donc première étape, on prend l'adresse, on la chiffre. C'est comme si en gros je posais la première poupée russe sur une enveloppe qui contiendrait l'adresse du site sur sa face avant. Ensuite je vais prendre le tout et je vais rechiffrer l'ensemble du message, donc qui a déjà été chiffré pour le nœud de sortie, mais pour l'avant-dernier nœud. Donc c'est exactement comme si je prenais une deuxième poupée russe et que je la posais par-dessus la première, qui est posée par-dessus l'enveloppe. Et je recommence, j'empile les poupées russes, je chiffre, jusqu'à chiffrer pour le premier nœud, c'est-à-dire le nœud d'entrée. Et là, je peux tout envoyer au nœud d'entrée. Et donc ensuite, ce qui est très malin, et ce qui s'illustre bien avec les poupées russes, c'est qu'il va falloir faire l'opération inverse pour retrouver l'enveloppe et donc pour retrouver l'adresse originelle. Et là où c'est très malin, c'est que la première poupée russe, elle sait juste ce qu'elle a en dessous d'elle. Elle voit pas ce qu'il y a au-delà. Donc elle sait juste, en gros, le prochain nœud dans le réseau Tor à qui elle doit envoyer le message. Puisqu'elle n'est pas capable de déchiffrer les messages qui ont été chiffrés pour les autres nœuds. Donc, le nœud d'entrée va déchiffrer sa partie et envoyer au nœud suivant. Le nœud suivant déchiffre sa partie, envoie au nœud suivant, etc. jusqu'au nœud de sortie. Et enfin, le nœud de sortie va transmettre au site. Et donc, ce qui est super bien avec ça, c'est que chaque nœud a un petit bout d'information. Mais c'est vraiment, ça sera jamais l'accès au chemin complet. Et donc c'est ce qui garantit vraiment fortement l'anonymat sur le réseau Tor.
D'accord. Donc vraiment tout est isolé, le message est isolé à tout moment. On peut vraiment jamais savoir, à part l'avant-dernier nœud, on peut pas savoir avec qui on va communiquer.
C'est ça, à part le dernier nœud du réseau, okay. On sait juste ce qu'il y a avant nous, ce qu'il y a après nous. Après, sauf évidemment trucs très très techniques et spécifiques, mais de manière générale, non, c'est garanti.
Ok.
C'est vraiment comme, hein, si on reprend notre analogie avec nos boîtes, dans l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure, eh bien Charlie, il emmenait la boîte, hein, de Alice vers Bob. Donc en fait, il savait pertinemment que Alice communiquait avec Bob. Si maintenant, au lieu d'avoir un Charlie, on met plein de Charlie, Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3, etc., eh bien c'est comme si chacun allait transmettre au suivant, mais en fait, chacun ne connaît que le nom en quelque sorte du suivant, et chaque suivant que le nom du précédent et de son suivant à lui, et chacun en ouvrant une boîte obtient l'adresse du suivant mais ne peut pas aller regarder ce qui se passe en dessous. Donc personne effectivement ne connaît jamais le chemin complet.
Ouais, exactement.
Avec ce qu'on s'est dit là, Quentin, est-ce que Thor, du coup là, ce qu'on a raconté là, ça suffit à protéger absolument le contenu de toutes les communications donc?
Non, bah non, t'as raison d'insister là-dessus. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai voulu dire en disant que ça protégeait uniquement de qu'un indiscret puisse savoir qui parle avec qui. Donc c'est parce qu'en fait, si on reprend la logique qu'on a expliquée, le nœud de sortie, lui, a accès au message originel, au message à l'enveloppe en fait. Et donc l'enveloppe, de toutes les façons, vu que c'est une enveloppe, il a accès à l'adresse. Donc c'est-à-dire que le nœud de sortie, c'est quel site va être visité. Il ne sait pas d'où ça vient, mais il sait quel site va être visité. Mais si le contenu de l'enveloppe lui-même, eh ben, il n'est pas protégé, ben, ça veut dire que le contenu est visible également par le nœud de sortie. Et pour plein de raisons, ben, le contenu peut contenir des informations personnelles, donc permettre de remonter à vous, donc de toute évidence. Ce qui est très important pour protéger également le contenu de ces communications et pas seulement le chemin, eh bien, c'est d'utiliser un protocole de chiffrement comme HTTPS. Je pense que la plupart des auditeurs et éditrices voient ce que c'est, mais en tout cas, c'est, vous savez, le petit cadenas dont on parle dans le navigateur qui indique que le contenu est chiffré directement entre le serveur et le client. Donc, pour faire un petit résumé, quand on communique sur Internet avec un site web, si on n'a ni HTTPS, ni Tor, n'importe quelle personne qui ferait une attaque du milieu, donc qui espionnerait la ligne entre nous pour voir à qui je parle et ce que je lui dis. Alors je dis dire, mais ça peut être juste consulter un site web, hein. Et ensuite avec Tor, on peut plus savoir avec qui je parle, mais on peut quand même accéder au contenu de ma communication, et le contenu de la communication peut révéler qui je suis. Et enfin, avec HTTPS et Tor, seul le destinataire connaît le message et lui-même ne peut pas savoir qui je suis, bon évidemment sauf si je l'écris dans le message. Voilà.
D'accord. Et du coup, sinon, si moi, demain, par exemple, je veux essayer Tor pour comprendre comment ça marche, comment je m'y prends? Comment je peux l'utiliser?
Alors, bonne question. Je pense que la plupart des gens s'attendent à une réponse complexe, parce qu'on a quand même tergiversé pour expliquer juste comment ça fonctionne. Mais en réalité, non, c'est incroyablement simple. Il suffit de se rendre sur le site torproject.org, où on pourra télécharger une version modifiée du navigateur web Mozilla Firefox. Alors bon, bien entendu, on ne l'a pas précisé, mais tout ce qui concerne le projet Tor, c'est des logiciels libres. Ce serait quand même un comble qu'un système qui est censé garantir l'anonymat et qui sert notamment aux lanceurs d'alerte soit pas libre.
En fait, Quentin, si je peux t'interrompre, ce serait plus qu'un comble. Quelque part, ce ne serait pas possible, hein, puisque si on veut vraiment garantir le fonctionnement d'un logiciel, à un moment, on a besoin que le code soit libre pour qu'on puisse le réviser, le lire. Donc là, du coup, c'est une condition nécessaire, en quelque sorte, à tout ce qu'on a raconté, ce qu'on va ajouter.
Ouais, c'est vraiment une contrainte. Et d'ailleurs, le code a été audité énormément de fois, fait l'objet d'énormément d'études. Donc, bien sûr, on est quand même sur quelque chose... des enjeux, donc qui est vraiment sérieux. Donc une fois que vous aurez téléchargé le navigateur, il s'utilise comme un navigateur classique, et comme le disait Ludovic, il y a plein d'extensions qui ont été rajoutées dessus, qui permettent par exemple d'utiliser HTTPS dès lors que c'est possible, de désactiver certaines fonctionnalités de certains sites qui pourraient révéler des informations sur vous, etc. Et donc voilà. Donc pour revenir un peu plus les pieds sur terre, Ludovic a déjà répondu à la question de savoir qui utilise Tor. Mais justement, voilà, ce ne sont pas que des lanceurs d'alerte ou des dangereux criminels. Tout un chacun a le droit à son anonymat sur Internet. Et Tor permet.
Ou pour éviter la censure. Éviter la censure, comme dit précédemment.
Exactement. Bah, la Chine est un très bon exemple. Énormément de sites qui sont bloqués, énormément de communications qui sont espionnées, de systèmes de surveillance généralisée. Voilà. Donc c'est évidemment quelque chose qui permet. de s'extraire en tout cas de la surveillance massive. Ouais.
Et puis j'ajoute une petite chose, du coup Ludovic disait tout à l'heure qu'utiliser Tor pour des usages triviaux, c'était effectivement utiliser un tank pour écraser une mouche, ou je ne sais plus quelle analogie on avait prise. C'est assez vrai, mais on m'avait aussi une fois rétorqué quelque chose que j'ai trouvé assez pertinent, du coup que je livre là, c'est que si en fait il n'y a que les lanceurs d'alerte qui utilisent Tor, on va le voir tout à l'heure, on sait en fait qui utilise Tor sur le réseau, bah quelque part ça veut dire aussi que quelqu'un qui utilise Tor, c'est forcément quelqu'un qui fait un truc un peu spécial, quoi, un peu bizarre, et donc qui mérite d'être surveillé. Alors que s'il y a plein de citoyens qui utilisent Tor entre guillemets pour rien, bah les gens qui vont vouloir surveiller ceux qui utilisent Tor, ils vont se retrouver du coup dans plein de cas où enfin voilà, c'est pas parce qu'ils trouveront quelqu'un qui utilise Tor qu'ils trouveront quelque chose d'intéressant derrière.
Et je me permets de rebondir là-dessus. Alors là, honnêtement, j'ai pas du tout la source, donc je me garderais bien d'affirmer des choses, mais il me semblait que typiquement aujourd'hui, ou en tout cas il y a quelques années, un particulier qui utilisait Linux était considéré comme potentiellement, enfin en tout cas on le remarquait, voilà, c'était quelque chose de remarquable. Il y a moins d'un pour cent des gens, il me semble, qui ont des desktops sous Linux, donc c'est la même chose avec Tor. Plus il y a de gens qui l'utilisent, effectivement, moins il y a de risque de passer pour un
alien.
Voilà, par exemple.
Et puis après, encore une fois, je parlais tout à l'heure des protections contre le marketing ciblé. Alors, il y a effectivement un certain nombre de choses qu'on peut faire avant d'utiliser Tor. Hein. On va pas, enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui de rentrer là-dedans. Mais à un moment, il y a des sites qui vont tout simplement collecter votre adresse IP et à partir de là, décider si, par exemple, vous êtes déjà reconnecté plusieurs fois pour changer son offre dynamiquement.
Ouais, comme sur les sites des aéroports, je crois qu'ils font ça.
Ouais, tu crois
plusieurs fois, c'est déjà arrivé de se connecter plusieurs fois pour voir le prix, et à chaque fois qu'on se reconnecte, le prix augmente. Du coup, ça, on se dit, oula, il va augmenter indéfiniment, donc ça nous force à acheter. C'est une espèce de pression pour nous faire acheter plus vite.
Carrément, voilà. Ultra typique. Ouais.
Exactement, ça se passe aujourd'hui aussi pour l'achat de billets SNCF, où effectivement, à des moments, on va vous dire, bah, dépêchez-vous, vous n'avez plus tant de temps, etc. Et en fait, bah, du coup, si on utilise Tor, on est protégé de ce genre d'usage. Moi, je voulais expliquer les trucs avec des IP, mais on a peut-être pas le temps, donc on verra à la fin si on a le temps, on enchaîne.
Ah ouais, ton bel exemple compiègnois, oui.
Du coup, Tor, c'est pas un réseau à part, c'est vraiment pour se connecter sur les sites habituels.
Oui, c'est ça, en fait, c'est un réseau... Enfin, quand on dit le réseau Tor, c'est effectivement, entre guillemets, un peu un réseau à part, mais il se base sur le réseau Internet. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir d'équipement particulier, il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur particulier. C'est vraiment une surcouche d'Internet, donc simplement, qui permet l'anonymisation grâce au chiffrement, grâce au routage en oignon. Mais voilà, tout le monde peut l'utiliser sur n'importe quel ordinateur, du moment qu'on télécharge les choses qui vont bien, quoi.
Mais c'est mieux que la navigation privée.
Alors, la navigation privée, c'est vrai que c'est un sujet qui pose problème. Beaucoup de gens ont pensé que la navigation privée permettait de rendre anonyme. Aujourd'hui, quand sur Firefox on ouvre la navigation privée, il y a un gros truc qui nous dit « alors attention, ça ne vous rend pas du tout anonyme », donc c'est dire s'il y a eu confusion. Non, la navigation privée, ça permet simplement de ne pas conserver la trace de sa navigation, donc par exemple sur son poste de travail, de ne pas aussi conserver les cookies, donc si on se connecte sur un site, qu'on ferme la navigation privée et qu'on y revient plus tard, eh bien on ne sera plus connecté. Mais vu de l'extérieur, ça ne change absolument rien, le serveur sait toujours qui vous êtes, il voit votre adresse IP, votre fournisseur d'accès Internet aussi, etc. Donc vraiment, la navigation privée, c'est le niveau zéro de l'anonymat.
Et du coup, j'ai aussi entendu parler de VPN. Est-ce que Tor, ce serait mieux qu'un VPN ?
Alors là, Quentin me donne la parole, mais moi, je voulais toujours parler de mon histoire d'adresse IP. Donc je vais faire ça à la place de répondre à ta question. Et ensuite, on reviendra sur cette histoire de VPN. Parce que c'est
arnaqué, en fait, vraiment.
Carrément. Non, mais plus je relisais mon truc, plus je me dis que c'est utile, en fait. Non, mais au moins, effectivement, tout le monde n'a peut-être pas conscience de ça. Donc moi, j'invite tous les auditeurs qui ont un ordinateur à se connecter sur un site, il y en a plein, mais j'en cite un d'ailleurs au hasard, qui s'appelle mon-ip.net, donc mon-ip.net. Et en fait, lorsque vous allez arriver sur ce site, vous allez voir que le site que vous consultez, mais du coup c'est vrai pour tous les sites internet que vous consultez, eh bien ils connaissent votre adresse IP, et si vous lui demandez de vous géolocaliser, en général il va vous géolocaliser relativement précisément en fonction de votre type de connexion. Donc en fait c'est là où vous voyez que lorsque vous utilisez internet, eh bien votre adresse IP permet de vous identifier partout où vous allez. Si jamais vous refaites la même expérience, je l'ai faite juste avant l'émission avec un navigateur Tor, eh bien évidemment la première expérience, j'étais à l'UTC, donc on m'a localisé à l'UTC, j'y étais. Lors de la seconde seconde expérience, mon IP avait complètement changé et j'étais localisé à Amsterdam. C'est-à-dire que la personne, le site auquel j'étais connecté, eh bien, croyait que j'étais à Amsterdam. Alors, puisqu'on m'a posé la question sur le VPN...
Oh, ce forceur, vraiment, ça.
En fait, si vous utilisez un VPN, on va avoir un effet assez similaire. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vu tout à l'heure, quand moi, je me suis connecté avec le réseau Tor et qu'on a vu que j'étais à Amsterdam, en fait, ce qu'on a vu, c'est le nœud sortant du réseau Tor que j'ai utilisé. Mais déjà, si j'utilise plusieurs fois le réseau Tor, eh bien, je ne vais pas toujours être à Amsterdam. Je vais être à des endroits très différents du monde. Donc déjà, voilà, ça fait quand même une première différence. Alors que si vous utilisez un VPN, vous serez toujours à l'endroit où est votre VPN. Mais surtout, la différence fondamentale, c'est que lorsque j'utilise Tor, personne ne sait, personne ne connaît le chemin complet, personne ne sait qui je suis. Alors, lorsque vous utilisez un VPN, eh bien, la personne qui vous fournit le service de VPN, en fait, il va vous anonymiser vis-à-vis du reste du monde, mais lui, il connaît, lui, il sait, en fait, il connaît vos connexions. Donc, si vous lui faites confiance, eh bien, il n'y a pas de souci, mais si jamais, à un moment, eh bien, il a envie, ou il est obligé par la loi, ou quelles que soient les raisons, eh bien, à un moment de communiquer votre adresse et les informations, eh bien, il en dispose. Donc, c'est vraiment une différence fondamentale.
Et si on utilise son propre... Si on utilise son propre VPN avec une machine virtuelle, par exemple, sur un serveur, est-ce que ça garantit l'anonymat ou... Parce que du coup, là, on passe par personne, par aucune entreprise.
Mais du coup, le VPN, il t'appartient, donc déjà, ça fait un peu...
Il va être derrière la même IP.
Toi,
il va
être un peu fiché aussi, quoi.
Il va être associé à toi derrière la même IP,
ouais,
etc.
Ouais, c'est vrai.
L'intérêt, là, d'utiliser... Quand
après, par exemple, on ne pourra plus se faire géolocaliser. Si quelqu'un récupère mon IP... Il pourra toujours, il trouvera l'IP de la machine que j'utilise en tant que VPN, mais ce qu'il trouvera, il pourra pas me retrouver moi. Je sais pas si je suis très clair.
De toute façon, l'IP, c'est toujours l'association d'une identité à une machine. Par exemple, tout à l'heure, dans l'expérience que j'ai faite, j'ai été identifié à l'UTC,
oui.
Mais du coup, personne ne savait que c'était Stéphane Crozat qui était derrière.
Du coup, est-ce qu'il y a des inconvénients du coup à utiliser Tor?
Alors, Stéphane, écoute, vu que je suis revenu sur l'IP, moi je vais revenir sur ce que tu as dit, parce que, alors, c'est vrai que tu disais que c'était lent, Tor, c'est vrai que c'est plus lent que les connexions classiques, mais alors honnêtement, ça s'est vachement amélioré ces dernières années. Je sais que quand j'avais mis les pieds la première fois sur Tor, ça devait être il y a, moi je dirais 4-5 ans, vraiment des pages, des fois, mettaient une ou deux minutes à charger. Aujourd'hui, le nombre de nœuds augmente, donc la bande passante augmente. Parce qu'évidemment, toutes ces opérations de passer par des nœuds différents de chiffrement, ça peut un petit peu ralentir les choses. Mais voilà, plus il y aura des gens qui hébergeront des nœuds avec de la bonne bande passante, plus ça sera rapide et je pense que ça tend plutôt dans cette direction.
Et Ludovic, ouais. Ludovic nous l'a dit tout à l'heure, hein, lui il héberge un nœud Tor. Et en fait,
j'en héberge deux.
Deux.
J'en héberge deux. Et en fait, l'inconvénient d'utiliser un nœud Tor, c'est qu'il y a certains sites web qui bloquent les nœuds de sortie Tor, quand ils sont connus, qui les flaguent comme étant des spammers.
Ouais.
Et donc voilà, tu peux te retrouver dans cette optique-là.
Mais toi tu héberges un relais, on est bien d'accord, hein, c'est ça, pas des nœuds de sortie.
Ouais,
c'est ce que tu disais.
J'héberge deux relais.
Ouais, ouais,
un
okay.
En France et un aux Pays-Bas.
Pareil,
si on va sur le site de Metrix, metrix.corprojects.org, on pourra regarder que la plupart des relais, la plupart des nœuds de sortie sont très concentrés sur trois gros opérateurs, OVH, Scaleway Online et Ertzner, puisqu'ils offrent de la bande passante pour pas cher. Et donc... Il y a un petit problème à ce niveau-là sur le très long terme de Tor.
On les recitera en fin d'émission, mais tu les as mentionnés aussi tout à l'heure sur le site, donc Nos Oignons. Cette problématique, notamment, est parmi d'autres, est très bien expliquée. Peut-être une toute dernière question avant de... On a fait une émission un peu dense aujourd'hui, mais le sujet s'y prêtait. Avant de passer à la musique, Quentin, avec tout ce qu'on s'est raconté, là, est-ce que Tor, c'est 100% sûr? Est-ce que je risque vraiment rien lorsque j'envoie des informations via Tor?
Évidemment non. Hein. Tous les gens qui vous diront que quelque chose est 100% X, en général, ça fait un peu marchand de tapis quand même. Comme on l'a dit, il faut faire très attention aux messages qu'on envoie, en particulier. Alors bon, quand on veut discuter avec quelqu'un, parce qu'on a prévu de discuter avec quelqu'un sur internet en passant par le réseau Tor, ok, pourquoi pas, mais par exemple si vous êtes, je sais pas, si vous voulez transmettre une information anonymement, c'est vrai que j'étais en train de m'embrouiller, merci Stéphane. bon, en gros, tout ce que je veux dire, c'est que dans le message, il faut faire attention à ce que vous dites, parce qu'au final, la personne, la destinataire, voit le contenu du message. Donc de toute évidence, si vous laissez des indices sur votre identité et que vous voulez être parfaitement anonyme, eh ben, ça reste une mauvaise idée. Et quand bien même, si vous envoyez un message à quelqu'un via Tor, bah, il peut être stocké sur un ordinateur qui lui n'est pas chiffré. Enfin voilà, donc bon, voilà, on n'est jamais sur le 100% sûr. Et enfin, si c'est une nécessité d'être complètement anonyme, il y a des techniques qui sont très complexes, hein, des gouvernements, des agences gouvernementales, des entreprises, des chercheurs qui mettent tout en œuvre pour essayer de trouver des failles sur le réseau Tor. Et donc simplement, le fait d'être sur un ordinateur, son ordinateur personnel, et d'utiliser Tor dessus, bah, vous imaginez que si votre ordinateur est infecté par exemple par un verre ou ce genre de choses, eh bien utiliser Tor ne vous protégera pas de votre propre ordinateur. Donc voilà, une bonne pratique d'hygiène numérique, c'est de jamais se dire qu'on est totalement en sécurité parce qu'on utilise un logiciel robuste.
On va aller se reposer un petit peu. Donc on va d'abord annoncer le sujet du quiz. En fait, on va peut-être d'abord remercier et saluer Ludovic. Encore une fois, tu peux rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, mais normalement, on ne dit plus rien de très profond à partir de maintenant.
Bon, je vais vous laisser alors.
Bah, merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi, merci. C'était super sympa.
Yes. Merci. À la prochaine, ciao.
Mais c'est le générique de début.
Voilà.
Est-ce que l'un de vous deux.
Alors, pour le petit quiz, la question, c'est être anonyme sur Internet. Est-ce que ça veut dire qu'on peut envoyer des messages sans révéler qui on est? Donc, qui on est, c'est quelle est notre adresse IP. Pour être anonyme, il faut soit utiliser la navigation privée, soit utiliser un VPN, utiliser HTTPS ou utiliser Tor.
Eh ben nickel, bah comme d'habitude, on donnera la réponse au quiz après la diffusion de la traditionnelle musique sous licence libre. Donc aujourd'hui, et comme ces dernières semaines, on dégote tout sur le site dogmasic.net, ce que je vous encourage à aller consulter. Et donc ce sera Grève Angélique. Alors je pense que ça se prononce Captain, c'est écrit KPTN, et donc c'est en Creative Commons by SA. Bonne écoute.
Sur leurs nuages, quelques anges de passage observaient les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage, pas de quoi taper des mains. Puis sur la rue, ils virent un attroupement, un cortège bruyant encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait sans faiblir, des anges réfléchir. Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons pour une bouchée de pain. Même si le vin coule à flot, on n'a ni arche ni radeau, on n'ira pas très loin. Marcher sur les ailes, on en a marre de faire du zèle pour un salaire de démon. Vous avez beau être notre père, on vous jettera des saintes pierres si vous lisez pas la pétition. On défilera dans les couloirs de la mort, sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix. Les anges tombaient du nid, percer au paddy. Inutile de me faire une scène, j'ai bien compris le problème. Mais je suis seul maître ici. Mon jugement final est déjà prononcé. Et j'ai une armée d'anges gardiens de la paix. Alors votre recueil de prières peut rester dans son sanctuaire. Et vous hors de ma vie. Les anges se mirent à genoux, esprières, syndicats, priez pour nous. Jusqu'à perte de voix. D'un geste désinvolte, Dieu les remit à l'apôtre, qui sobrement les congédia. Le vent de révolte devint une prise de déception. Les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras. Les anges partirent déchus.
Et de retour dans La Voix est libre, c'est bientôt la fin de l'émission. C'est l'heure de la réponse au quiz, donc pour rappel, la question était de savoir que faut-il faire pour être complètement anonyme sur Internet. Boris, je crois que tu as la réponse.
Alors, c'était une question piège. On ne peut jamais être vraiment totalement anonyme, notamment si on envoie des informations personnelles, etc. Mais on aurait pu mettre une réponse intermédiaire qui était tout, en fait. Il faut à la fois utiliser un VPN, navigation privée, HTTPS et Tor, car chacun de ces outils ont une utilité différente. Bien que on peut considérer que la brique centrale, c'est Tor qui permet d'être le plus anonyme. Donc s'il n'y avait qu'un seul de ces outils à utiliser, ce serait Tor. Le mieux, c'est tout, mais il faut retenir qu'on n'est jamais totalement anonyme.
Eh ben nickel, hein, parfait, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on fait pas mal de quiz pièges ces derniers temps, alors je sais pas si on est un peu taquin, mais ça va plus marcher au bout d'un moment. Pour finir, on va peut-être, comme d'habitude, donner quelques liens. Adrien, tu nous files les liens ?
Romain.
Ah Romain, pardon, oula, mais quel salopard, hein, excuse-moi.
C'est pas grave. Ah, du coup... Pour télécharger Tor Brother, vous pouvez vous rendre sur torproject.org. Donc dessus, vous pouvez télécharger le navigateur Mozilla qui a été configuré pour utiliser le réseau Tor. Et pour consulter l'adresse IP vue par le site destinataire, vous pouvez vous rendre sur mon-ip.net. Et enfin, sur nos-oignons.net, vous trouverez le site de l'association qui parle de vie privée et qui comporte des bons articles sur le navigateur Tor.
Eh ben merci beaucoup Romain, avec toutes mes excuses évidemment. c'est ça de gérer les curseurs en même temps. Et du coup, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. J'oublie souvent de le dire à la fin d'émission, mais vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radio.picassoft.net. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et on vous souhaite tous une bonne journée. À la prochaine, ciao.
Salut.
Au revoir.